Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Luc, dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Donc, normalement, vous avez lu les 27 premiers versets de ce chapitre, qui est l'histoire de quoi? De la résurrection de Lazare, sauf que vous n'avez pas lu jusqu'à la résurrection de Lazare. Normalement, vous avez lu au verset 27. Donc, c'est pas tout à fait l'histoire de la résurrection de Lazare jusqu'au verset 27, mais c'est l'histoire, c'est plutôt la rencontre, l'échange entre Marthe et une partie en tout cas de l'échange entre Marthe et Jésus. Mais c'est vrai que l'ensemble de l'histoire porte sur la résurrection de Lazare, le miracle de la résurrection. Alors, quand on lit ces versets que nous avons lus, je pense que c'est une histoire intéressante parce qu'elle résume beaucoup de choses. Hein. D'une part, le problème crucial auquel les hommes ont à faire face, c'est quoi? La mort, hein, on va dire, hein, mort physique en tout cas. Et on sait à quel point cela est troublant. Et désolant même, quelle tristesse parfois la mort de notre cher peut porter quoi. Et puis de l'autre côté, on a ce qui semble être le bien le plus précieux, c'est quoi? La vie, la vie. Hein. Et entre les deux, le combat pour maintenir la vie en éloignant autant que possible la mort. Et c'est ce qu'on a dans ce texte un peu quand même, hein, parce que on a Marthe qui et Marie qui envoient des personnes pour dire à Jésus que Lazare est comment? Non, pas mort, mais qu'il est malade. Et puis quand Jésus arrive, bon, Lazare est mort, mais Marthe et Marie disent à Jésus: si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Hein? Donc quelque part, on voit que c'est le sujet ici, c'est celui de cette mort qui cause tant de problèmes et qui semble être la chose la plus terrible, en tout cas, qui vient troubler les relations que l'on a. Et c'est dans cet échange que Jésus a avec Marthe, particulièrement, qu'il dit ce « je suis », qu'on est en train de voir hein, ici. Donc, « je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Et c'est vrai qu'à chaque fois que Jésus a prononcé ces choses, c'était toujours dans des discussions hein, avec les gens, quand il a parlé de « je suis le pain de vie », ensuite « je suis la lumière du monde », après « je suis la porte des brebis ». La semaine dernière, on a vu « je suis le bon berger ». Ici, « je suis la résurrection et la vie ». Au chapitre 14, « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et puis au chapitre 15, « je suis le vrai cèpe ». Et mon père est le vigneron. Donc, nous voulons considérer cette parole de Jésus quelques instants ce soir. D'abord, on va regarder un petit peu le contexte dans lequel il en passe. On a commencé à l'évoquer. Mais la Bible nous dit ici dans les premiers versets qu'il y avait une famille qui était quand même relativement intime à Jésus-Christ. Hein, la famille de Béthanie, Marthe, Marie et Lazare. C'était des personnes que Jésus, quoi ici? Qu'est-ce qu'il a dit? Il aimait. Est-ce que c'est écrit ça? Vous êtes sûr? Regardez au verset 3 plutôt. Il dit, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, voici celui que tu aimes est malade. Et puis au verset 5, or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. C'est intéressant d'avoir ça, comment cette affection personnelle, hein, pas dit Jésus aimait la famille, mais il aimait Marthe, il aimait Lazare et il aimait Marie. Alors, est-ce que on se fait toujours comme ça pour toutes les personnes que Jésus rencontre? Non, la Bible ne dit pas ça à toutes les personnes. Donc il y avait certainement des personnes qu'il affectionnait particulièrement, avec lesquelles il avait une relation particulière et une famille dans laquelle il aimait aller. Et donc il avait, on pourrait dire qu'il avait un cercle intime, hein, de personnes, et Marthe, Marie et Lazare faisaient partie de ce cercle de personnes. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas les autres, mais il avait une affection particulière pour ces personnes-là. Alors, et c'est quand Marthe et Marie font appel à Jésus, ceux qui viennent, les serviteurs qui sont venus, hein, les personnes qui sont venues vers Jésus, s'appuient sur cette affection. Verset 2, verset 3, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, voici, ils disent pas Lazare est malade, mais ils disent quoi? Celui que tu aimes est malade. Et donc ça veut dire qu'il s'appuie vraiment sur la connaissance de cette relation qui existait entre Jésus et les membres de cette famille. Les sœurs ne font pas de requête, elles ne disent pas viens au plus vite, quand nous t'attendons, elles disent simplement Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Et donc elles ne font pas de requête, mais on comprend très bien qu'elles veulent que Jésus vienne le plus vite possible. Que Jésus vienne le plus vite possible. Et l'attente est d'autant plus forte, on pourrait dire, que la famille est aimée du Seigneur. C'est pas simplement que eux, ils disent, ils aiment le Seigneur, mais ici, il dit que le Seigneur les aime. Il est le Seigneur, celui qui a tout pouvoir, d'accord? Et en plus, la famille est connue de lui et les aime. Tout ça dans la petite phrase que disent les serviteurs. Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Voilà. Donc les sœurs attendent, font appel à Jésus. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est que le Seigneur retarde son intervention. Il retarde volontairement, on pourrait dire même son intervention. Il n'y va pas tout de suite. On aurait pu s'attendre à ce que Jésus dise, ah, voilà, alors là, c'est vraiment Marthe, Marie et Lazare, il faut que j'y aille, qu'il y aille avec ses disciples tout de suite. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il fait. Regardez au verset 6, il est dit, lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il ne part pas au secours de Lazare, de Marthe, de Marie. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas le temps, ou est-ce que c'est parce que son amour était pareil pour tout le monde, donc là il dit bon, pas plus l'un que l'autre. Est-ce que c'est parce qu'il était occupé à d'autres tâches? Pourquoi est-ce qu'il met ce délai pour aller jusqu'à Marthe et Marie? Est-ce que vous avez une idée? Oui. Voilà, il le dit, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Par quoi? Par la maladie ou par la mort, peut-être on peut dire les deux, hein, parce qu'il dit, cette maladie n'est point à la mort. Hein? Donc on pourrait dire ici qu'il parle peut-être de la maladie, mais on pourrait supposer aussi que c'est la mort, puisqu'il savait que Lazare allait mourir, pour que Dieu soit glorifié par elle. D'accord. Mais pourquoi est-ce que ça va glorifier Dieu? Parce que il savait qu'il allait ressusciter Lazare. Peut-être, oui, on peut dire ça aussi. Je reviens sur la question. Le fait que Jésus reste, parce que vous voyez, on donne le nombre de jours dans lequel il reste, non? Deux jours, ici. Et puis après, quand il arrive auprès de Lazare, on dit qu'il s'est passé, il était déjà au sépulcre depuis 4 jours. 4 jours, déjà, hein. Et puis, quand Jésus, un peu plus, on n'a pas lu, mais quand il dit, où l'a-t-on mis? Marthe dit, mais Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est là, il sent déjà, il est en décomposition, on va pas. Et donc, voilà, on peut supposer ici qu'il y a une autre raison pour laquelle Jésus a attendu avant d'y aller. C'était pour laisser à Lazare le temps de mourir. C'est un peu étrange de dire la chose comme ça, mais c'est étrange pour nous parce qu'on se dit Jésus a le pouvoir de maintenir la vie. Pourquoi il ne maintient pas la vie? Donc ici, il veut pas, il laisse le temps qu'il meure. Mais bon, mais il aurait pu arriver au moment même où il meurt, ça aurait été suffisant. Eh bien, en lisant les commentaires, j'ai trouvé que dans la superstition juive, il y avait l'idée que quand quelqu'un mourait, eh bien, l'âme de cette personne, l'esprit en tout cas, rôdait pendant 2-3 jours en essayant de reprendre position dans le corps. Et donc, au bout de 3-4 jours, le corps commençait bien sûr à pourrir. Hein, et à ce moment-là, bon, c'était plus possible que l'esprit rentre là-dedans. Donc, voilà. Donc, on savait que la personne était bien morte. Hein. Et faut se dire que voilà, à l'époque de Jésus, hein, on enterrait pas les gens. Nous, des fois, ça prend une semaine, parfois plusieurs jours, etc. On enterrait les gens assez rapidement quand les personnes décédaient. Et probablement pour faire taire bien cette superstition, il y a une attente pour qu'il soit considéré bien comment ça fait, et pour les petits détails que donne Marthe, il sent déjà, ça fait longtemps qu'il est là, etc. C'est une manière de dire qu'il dort, qu'il est mort véritablement. Et puis Jésus lui-même, au verset 14, lorsqu'il dit à ses disciples, bon, allez, Lazare dort et je vais le réveiller, il dit, mais s'il dort, il a dit, s'il dort, c'est qu'il est guéri, il n'y a pas besoin. Et puis, Jésus dit, bon, Lazare est mort. Voilà. Ouais, il est mort. On y va. Donc, à ce moment-là, lui-même, il affirme qu'il est bien mort. Et il dit même, et à cause de vous, verset 15, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. J'ai un cousin qui fait de la médecine et il disait l'une de ses plus de ses comment dire de ses peurs les plus grandes, c'est quand on l'appelle pour constater la mort de quelqu'un. Il dit il a toujours eu peur de mettre sur un papier que la personne est morte alors qu'elle ne l'est pas. Et il s'est passé des choses à l'époque où on enterrait les gens rapidement, hein, où les personnes étaient pas vraiment mortes, étaient dans un état mais qui n'était pas vraiment la mort, et les personnes se sont réveillées au moment même où on les amenait à cette époque primitive, où on les amenait au cimetière et toquaient à l'intérieur du cercueil. J'en vois ici qui auraient déposé le cercueil, qui auraient couru, hein, tellement vous avez des histoires qui traînent dans votre tête. Mais il s'est passé des choses comme ça dans les régions où on enterre rapidement, c'est possible. Hein. Et il y avait même j'ai entendu qu'il y avait même des charlatans qui se servaient de ça, qui savaient qu'il y avait la possibilité, on nomme un certain médecin, j'oublie son nom, mais qui pouvait voir vraiment quand la personne n'était pas. On voyait bien qu'elle était dans un état quasiment éteint, mais il savait discerner qu'elle n'était pas vraiment morte, et il faisait croire qu'il ressuscitait les gens, comme ça. Hein. Mais au départ, il avait déjà bien discerné que la personne n'était pas bien mort. Donc, vous voyez, c'est parce qu'il y a eu ces choses-là que les gens ont cru que, ben, voilà, au bout de deux, trois jours, l'esprit peut revenir dans le corps et la personne revient à la vie alors qu'elle était morte. Alors que, la plupart du temps, c'est qu'elle n'était pas vraiment morte. Donc là, 4 jours, ça donne vraiment le temps de voir, de savoir qu'il est bien mort. Donc Jésus, vient en retard. Et, il y a un auteur qui dit ceci, il dit, Jésus exprime que, le texte ne dit pas que Jésus est allé, qu'il a pris du retard malgré l'amour qu'il avait, hein, pour cette famille, mais précisément à cause de son amour pour cette famille. Hein. Il dit ça comme ça, il dit, ce n'est pas malgré son amour pour la famille éprouvé que Jésus tarde, mais c'est à cause de son amour. Parce que le texte dit ici, lorsque donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours. Donc c'est volontairement qu'il le fait. Il retarde volontairement sa venue. Et ensuite, donc, il y va avec ses disciples. Donc on va relire tout le passage, mais il s'enclenche une discussion, un échange avec Marc, des versets 20 jusqu'au verset 27. Et Marc exprime vraiment sa tristesse de ce que Jésus n'avait pas été là à temps. Il dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. C'est ce qu'elle dit au verset 21. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus lui dit, à cause de vous, verset 15, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Jésus se réjouit de ne pas avoir été là. Marthe et Marie sont tristes de ce qu'il n'ait pas été là. Et vous voyez que parfois notre manière de considérer les situations, les choses, ou alors ce qu'on estime pouvoir être ce qui va nous procurer de la joie, eh bien c'est pas ce que pense le Seigneur. Elle pense que si Jésus avait été là, leur frère ne serait pas mort, probablement ce serait le cas, probablement guéri. Mais Jésus dit, moi je me réjouis de ce que je n'ai pas été là, hein, afin qu'il accomplisse de manière plus grande des choses qui glorifient Dieu et glorifient le Fils de Dieu. Alors Marthe exprime, alors Jésus lui dit, regarde au verset 21, elle dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là, selon vous? Comment vous comprenez cela? La relation entre Dieu et Jésus. D'accord, oui, pour ce qu'elle dit, ce que tu demanderas, Dieu te l'accordera. Mais il va demander quoi? Voilà, c'est que Dieu peut ressusciter Lazare, on peut dire ça, oui, probablement, mais est-ce qu'elle pense vraiment à ça? Est-ce que vous croyez qu'elle pensait vraiment au fait que Jésus va ressusciter Lazare, là? Voilà. Qu'est-ce qui vous fait dire non? Elle est désespérée. La suite, qu'est-ce qu'elle dit? Voilà, hein. Et après, quand Jésus dit, ton frère ressuscitera, elle dit pas, youpi, elle dit, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Donc, on peut comprendre que sa pensée n'était pas trop sur le fait que, Jésus va ressusciter Lazare. Et puis, un peu plus loin, quand Jésus dit, où l'a-t-on mis? Même là, elle dit, mais Seigneur, il sent déjà, on va pas, hein. Il est pourri, quoi, hein. Donc, c'est pas la peine, tu vois. Et donc, elle pensait pas à ça. Donc, quand elle dit ici, je sais que tout ce que tu demanderas, Dieu te l'accordera. Et certainement, comme disait Charity, elle parle de cette relation, de ce pouvoir. Elle est confiante dans ce pouvoir que le Seigneur a, qu'il est exaucé par Dieu. Ce qu'il demande à Dieu, Dieu lui accorde. Elle parle d'une certaine confiance qu'elle a en Dieu, mais elle n'est pas dans une attente de la résurrection, particulièrement de Lazare tout de suite, puisque sa réponse après montre qu'elle pense à autre chose. Donc elle exprime néanmoins sa foi dans la résurrection, mais la résurrection quand? Future de son frère. Hein. Quand Jésus dit au verset 23, ton frère ressuscitera. Alors bien sûr, ça peut être attribué à une résurrection future, mais aussi Jésus sachant ce qu'il va faire, hein, ton frère ressuscitera. Elle dit au verset 24, c'est 24, oui. Voilà, 24. Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc Marthe, elle sait des choses. Elle connaît, elle a de la doctrine, on pourrait dire, hein. Elle sait qu'il y aura une résurrection des morts. Elle n'est pas comme les Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection à venir. Donc elle sait ces choses-là. Elle a une théologie, on pourrait dire, correcte. Mais sa confiance est dans le fait que Dieu va ressusciter Lazare au dernier jour. Donc ça, c'est un peu tout ce qu'il y a avant que Jésus ne dise à Marthe, ici, au verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Donc là, il va lui enseigner quelque chose. Voilà. Il dit, d'accord, au début, ton frère ressuscitera. Elle dit, il ressuscitera au dernier jour. Elle dit, mais il dit, mais Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Je suis la résurrection et la vie. Qu'est-ce que Jésus dit en disant cela? Qu'est-ce qu'il veut dire ici, d'après vous? Qu'il a le pouvoir de redonner la vie, si on dit. On va dire, d'accord, de ressusciter. Oui, très bien. D'autres? C'est lui qui prend l'initiative, oui, de la vie. Oui, d'accord. Alors, oui, il est l'auteur de la vie, d'accord, très bien. Donc, si vous regardez Jean 5, 21, par exemple, hein, Jean 5, 21, regardez Jean 5, 21. Jean 5, 21, il dit, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. D'accord. Donc, comme je disais, il a le pouvoir de donner la vie. Verset 25, même chapitre. Verset 25 jusqu'au verset 29. Il dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il l'a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc il parle de sa capacité à amener la vie, à ressusciter. Mais de quelle résurrection il parle ici? De quoi il parle? La résurrection à la fin, au dernier jour. Je pense que il traite ici la question, les morts vont se lever, certains pour le jugement, d'autres pour la vie. Donc il parle de cette résurrection au dernier jour. Hein. C'est ce qu'on voit ici. Jean chapitre 6, verset 39, c'est encore chapitre 6, verset 39, tournez la page, où il dit, Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite quand? Au dernier jour. Verset 40, il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour aussi. D'accord? Verset 44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Et puis, au verset 54, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. D'accord? Donc, Marthe avait une bonne théologie quand elle dit, voilà, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Jésus lui-même a parlé beaucoup du fait qu'il ressuscitera au dernier jour, ceux qui lui appartiennent. Mais néanmoins, il dit plus quand il dit, je suis la résurrection et la vie. Il ne dit pas simplement, je vais ressusciter les gens ceux qui m'appartiennent au dernier jour, tous les hommes au dernier jour. Il dit qu'il est l'essence même de la résurrection et la vie. Il ne dit pas simplement qu'il a le pouvoir de ressusciter, mais il dit qu'il est la résurrection. C'est pas comme quelqu'un pourrait prendre, hein. C'est comme vous parlez de quelqu'un qui agit, disons quelqu'un qui agit avec douceur, hein. Vous dites, cet homme, il agit avec douceur, et puis s'il dit non, moi, je suis la douceur personnifiée. D'accord? Donc, vous allez dire, bon, il est orgueilleux, ce gars. Hein, d'accord, il devait se contenter de ce qu'on a déjà dit, mais c'est comme, c'est un peu ce que Jésus fait ici, d'accord? Il dit, bien sûr, il a le pouvoir de ressusciter, d'apporter cette résurrection, mais il dit plus que ça, il dit, je suis la résurrection et la vie. Autrement dit, il dit, la résurrection et la vie n'est pas un événement, la résurrection n'est pas un événement, un acte qui pourrait se produire quelque part. Et puis de l'autre côté, il y a Jésus qui a la capacité de faire cela pour des gens, Il dit quelque part que hors de lui-même, il n'y a aucune possibilité de résurrection et de vie. Parce qu'il est lui-même cette résurrection et cette vie. Impossible d'avoir en dehors de Jésus la résurrection et la vie. La résurrection et la vie sont étroitement liées à lui-même. Avoir la résurrection, c'est avoir Jésus. Avoir la vie, c'est avoir Jésus. Donc, il semble dire à Marthe ici qu'il ne faut pas chercher à comprendre la résurrection comme un événement qui est à venir. Hein? Mais, bien sûr qu'il y a un événement qui est à venir, qui sera la résurrection des hommes, mais de chercher à vivre personnellement une relation avec celui qui est la résurrection. Il dit, mon frère ressuscitera au dernier jour. Et Jésus lui dit, Marthe, es-tu en train d'enjamber quelque chose là? C'est pas, certes, c'est une bonne chose de croire cela, mais c'est pas là qu'il faut regarder. Il faut regarder à moi. Il faut croire en moi. Je suis la résurrection et la vie. D'accord? Et c'est posséder la résurrection et la vie que de me posséder. Je suis la source de la résurrection. Je suis la source de la vie. Lorsque à Pâques, hein, Jésus est ressuscité, hein, on parle de sa résurrection, n'est-ce pas, dans la Bible, il n'est pas ressuscité comme Lazare. Quelle est la différence entre la résurrection de Jésus et la résurrection de Lazare? Ou la résurrection du fils de Naïm, je crois, hein, ou la résurrection de la Tsunamite? Ils sont morts depuis. Bon, Lazare, il est remort, comme diraient les jeunes. Il est remort. Hein. Oui, il y a cela. Donc lui, il est ressuscité et il est vivant. C'est pour ça qu'on appelle le premier né d'entre les morts. Hein. Mais concernant sa résurrection particulièrement. Non. Par rapport à... comment est-ce que Lazare est ressuscité? C'est... Oui? Voilà. Jésus est venu, il lui a dit, sors. Et Lazare est sorti. Ah. Jésus dit à la fille Tabitha, lève-toi. Et elle se lève. Donc, c'est une résurrection, certains disent, qui obéissent, ce sont des résurrections qui obéissent à l'appel d'une voix extérieure. D'accord. Mais Jésus, lui, il est lui-même la résurrection et la vie. Bien sûr, la Bible dit que Dieu a ressuscité Jésus. La Bible dit que l'Esprit a ressuscité Jésus. Mais Jésus lui-même est revenu à la vie, de par lui-même. Il dit, dans Jean chapitre 2, verset 19, « Détruisez ce temple et je le relève. » Lui-même, il le relève. Et Jean dit qu'il parlait de son corps, du temple de son corps. D'accord? Et de sa résurrection. Au début, ils n'ont pas compris cela, mais après, ils ont compris qu'il parlait de son corps et qu'il parlait de sa résurrection. Dans Jean chapitre 10, versets 17 à 18, on lit ceci, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Lorsque Jésus est mort sur la croix, il est mort parce qu'il voulait mourir. Il n'est pas mort suite à ses blessures, même s'il y a eu beaucoup de blessures. Il dit, il remet son esprit à cet instant précis entre les mains de Dieu. Il ressuscite, on pourrait dire qu'il se ressuscite aussi à un instant précis. En même temps, c'est Dieu qui le ressuscite et qui approuve. Mais la Bible soutient que l'esprit, l'apôtre Paul dit en Romains, je crois, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus entre les morts, etc., habite en vous, bien aussi, vous aussi, hein, vous ressusciterez par son esprit. Donc, on voit les trois personnes de la Trinité qui œuvrent même dans cette résurrection. Donc, quelque part, ce que Jésus souligne quand il dit « Je suis la résurrection », c'est qu'il a la vie en lui-même, qu'il est la résurrection lui-même. Il est celui qui a le pouvoir de ressusciter les autres, mais parce qu'il est lui-même cela. Il est celui qui a le pouvoir de donner la vie parce qu'il est lui-même la vie. Hein. Il est lui-même la source de la vie et de la résurrection. Et donc, quand Jésus dit cela à Marthe, il lui dit, « Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Ici. Donc, crois-tu tout ce que je viens de dire, considérant ce que je suis. Et vous vous rappelez, on avait dit que Marthe avait exprimé sa foi dans la résurrection finale de Jésus. Mais ici, après on le voit, hein, plus tard, elle exprime sa foi vraiment en Jésus. Donc la foi, Jésus exprime que la foi en Jésus seul, et la foi, pardon, en Jésus est le seul moyen de posséder cette résurrection et cette vie. Il ne suffit pas de croire dans la résurrection au dernier jour. Il faut croire en celui qui est le principe même de la résurrection et la vie. C'est pour ça qu'il dit, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Ça veut dire quoi ça? De qui il parle ici? Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Ceux qui sont morts en Christ. D'accord? Donc il vivra, quand même il serait mort. Ça veut dire quoi? Qu'il vivra parce qu'il le ressuscitera. D'accord? Et la deuxième, et c'est ce qu'il dit, hein, on a lu les versets, Jean 6, 40, par exemple, je le ressusciterai au dernier jour. Mais il dit aussi, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Qu'est-ce qu'il dit là, ici? Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc il dit, premièrement, celui qui croit en moi vivra, même quand il serait mort. Donc il y a un futur ici, il fera revenir à la vie. Mais il dit, celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Voilà, il va vivre spirituellement. Il a la vie, quelque part il dit qu'il a la vie éternelle. Et donc, celui qui croit en moi, il dit, celui qui vit, qui est vivant, et qui croit en moi, ne mourra jamais. Lorsqu'un chrétien meurt, il ne meurt pas. Enfin, lorsqu'un chrétien meurt, il passe de cette vie. Je peux le dire comme ça. Il passe de cette vie à la vie auprès de du Seigneur. Il n'y a pas une continuité. À l'instant où il meurt, à l'instant, il se réveille, on pourrait dire, hein, avec Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Hein, j'ai le désir de quitter ce corps et d'être avec Christ. Mais d'accord, parce que c'est quitter ce corps, c'est être avec Christ. Hein. Et pour lui, c'est la même chose. Il n'y a pas d'étape intermédiaire. Et la Bible le soutient vraiment. Jean 3, 36 dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et puis en 8, 51, il dit par exemple, Jean 8, 51, il dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Il ne verra jamais la mort. Alors, bien sûr, on voit la mort physique, d'accord, mais on ne verra jamais la mort spirituelle, parce que celui qui croit en lui a la vie éternelle. Et on passe de cette vie, de ce monde, à la vie avec Christ. C'est une consolation pour le croyant de savoir cela. Mais Jésus dit, attention, c'est rattaché au fait d'avoir la foi en lui. Pas simplement d'avoir la connaissance de ces choses, mais d'avoir la foi en lui. Donc il dit à Marthe, est-ce que tu crois cela? Que je suis la résurrection et la vie, que celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et que celui qui vit croit en moi ne mourra jamais. Et Marthe répond, ici, regardez sa réponse au verset 27, elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans ce monde. Intéressant, elle dit pas, je crois que tu es elle englobe tout et elle dit, oui, je crois que tu es le Messie, hein. je crois vraiment que tu es celui, elle exprime vraiment cette confiance profonde en Jésus. Elle est passée de la foi en la résurrection, si on veut quelque part, hein, ici, à cette foi dans la personne même de Christ. Et c'est ça que Jésus souligne, qui est important ici. Hein. Quand on s'approche de lui, ce n'est pas une croyance simplement que l'on doit avoir dans des événements futur ou simplement dans des doctrines, mais c'est vraiment le fait de croire qui il est. Vous mourrez dans vos péchés, dit-il, au chapitre 8 de Jean, si vous ne croyez pas ce que je suis. Et c'est pour cela qu'à chaque fois, il ramène les gens sur ce qu'il est, vraiment. Parce que c'est ce qu'ils doivent recevoir. Et c'est une manière de dire que ces choses sont à vous à condition que vous croyez, que vous placez pleinement votre confiance en moi. Et donc, je termine avec ceci, chers frères et sœurs. La mort, on a dit, c'est le problème qui nous taraude le plus les hommes. Et elle est à cause du péché, on le sait. Mais néanmoins, la mort, c'est quelque chose qui vient changer tous nos plans. Je vais vous lire ce que disait un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Adolphe Monod, sur ce texte, mais en parlant de la mort dans l'introduction qu'il a fait dans un message qu'il a prononcé sur ces versets. Alors, il dit ceci, je vais vous lire, comme ça c'est plus simple. Il dit comme ça. Et nous vivons dans un monde où règne la mort. C'est peu que la mort présente renverse tous nos plans et finisse tout pour nous sur la terre. Même absente, elle attriste tout. Et cette fin inévitable ne disparaît jamais devant nos yeux. Cet enfant vient de nous être donné, mais il est né pour la mort. La guérison vient de nous être accordée, mais elle ne dure que jusqu'à la mort. Cette amitié fait notre consolation, mais elle doit être rompue et peut l'être d'un jour à l'autre par la mort. Et comme tout ce que nous faisons aboutit à la mort, on peut dire que nous ne vivons que pour la mort. Que si les joies de la vie sont si empreintes de la mort, que sera-t-il de ces peines? Il n'en est pas une qui ne tourne nos yeux vers la mort, car c'est dans son sein qu'elles vont toutes se jeter comme des ruisseaux dans une même rivière. Où va cette maladie? À la mort. Cet abattement du corps et de l'esprit? À la mort. Cette fatigue, ces privations, cette faim, cette soif? À la mort. Ce travail des années, cet affaiblissement des sens, ce tremblement des membres? À la mort. Ce nom effrayant est écrit sur tout ce qui nous arrive. Que dis-je? Il est écrit sur nos personnes, et quiconque aurait appris à lire dans les traits ou dans les rides, lirait inscrit sur le front de chacun de nous comme un arrêt de démolition sur un bâtiment condamné, la mort. Tout le mouvement du monde, ses spectacles, ses romans, ses fêtes, est pour s'étourdir là-dessus. Mais on a beau s'entendre avec soi-même, pour se distraire soi-même, on n'y réussit jamais. Et les efforts où l'on est réduit pour ne pas voir la mort ne servent qu'à mieux attester combien il est impossible d'en détourner la vue. Condamné à l'esclavage durant tout le cours de la vie par la crainte de la mort, ça c'est Hébreux 2:15, hein, voilà bien le genre humain peint au naturel. Mais au sein de cette race perdue et mourante, voici s'élève un homme qui ne se vante de rien moins que de supprimer la mort pour quiconque consent à se remettre à lui seul. Ou c'est le rêve d'un cerveau malade, ou bien c'est la délivrance la plus merveilleuse dont le genre humain ait entendu parler. Croyez-vous cela, dit Jésus, je suis la résurrection et la vie. Voyez, il dit dans ce texte, la maladie mène à la mort. Et Jésus a dit, cette maladie n'est pas pour la mort. C'est le seul qui puisse dire ça. Et elle n'est pas pour la mort si vraiment nous plaçons notre confiance en lui, parce qu'il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. et quiconque vit et croit en lui ne mourra jamais. Croyez-vous cela? Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour ta parole qui est la vérité et nous te demandons la grâce de pouvoir croire en ce que tu nous dis de toi-même, d'être comme Marthe, de recevoir tes paroles, Seigneur, et de savoir qu'en dehors de toi, il n'y a aucune vie possible. Tu es celui qui possède la vie impérissable, indestructible, et tu la donnes à ceux qui, par la foi, placent leur confiance en toi. Merci, parce que toutes ces choses nous sont accordées par le sacrifice accompli par toi, ô Jésus-Christ, à la croix du calvaire. Et nous te prions, Seigneur, que nous puissions regarder cette vie, non pas comme l'homme du monde la regarde, mais comme ta parole nous pousse à le faire à travers ta révélation. Oui, tu es la résurrection et la vie. Celui qui croit en toi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en toi ne mourra jamais. Donne-nous de placer pleinement notre confiance dans ces paroles qui sont la vérité pour la gloire de ton nom et pour notre bien. Amen. Voilà.